Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Clé des Champs, l'émission qui cultive la curiosité et qui met en lumière les richesses culturelles de notre beau territoire. Au programme de l'émission aujourd'hui, nous nous immiscerons dans l'univers du conte, en compagnie de nos deux invités, Véronique Duval, autrice et éditrice de La Nage de l'Ours, et Mélanie Claire, professeure de violoncelle au Conservatoire de Musique Aunis-Sud et à l'École de la Petite Aunis à Aigrefeuille-d'Aunis. Deux artistes du territoire qui viendront nous partager leur travail et qui nous parleront de leur actualité à venir autour de la création artistique Les Rivières Volantes. Nous reviendrons ensuite sur le projet Écomusique avec notre micro-trottoir, une initiative destinée aux scolaires qui mêle réflexion artistique et sensibilisation environnementale et qui invite surtout les enfants à repenser le monde à travers un regard créatif et engagé. Enfin, nous accueillerons la compagnie Les Déculottés, une troupe locale qui, à l'image de son nom intrigant, ne manque pas de surprendre et de bousculer les codes avec des thématiques et des propositions artistiques aussi variées qu'audacieuses. Mais sans plus tarder, je vous propose de commencer cette émission avec Renaud et Julie et leur interview.
Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors, avant de parler plus précisément du projet Les Rivières Volantes, est-ce que tu pourrais nous présenter ton travail d'éditrice à La Nage de l'Ours et plus précisément ton projet éditorial ?
Alors oui, La Nage de l'Ours, c'est une maison d'édition indépendante qui est née en 2017. Et on publie, la démarche est de publier quelques livres par an, pas beaucoup, en tirage limité, mais vraiment des beaux livres, faits avec soin, travaillés avec les auteurs, les autrices, et avec du beau papier, des artistes qui dessine, enfin voilà, un côté très soigné, qui d'ailleurs commence à être bien reconnu dans les instances professionnelles. Là, je reviens du salon de l'édition jeunesse de Montreuil, et ça s'est bien passé. Voilà. Et puis aussi avec en portant la parole d'auteurs et d'autrices qui nous questionnent sur notre relation au monde vivant, qui nous ouvrent les yeux sur... le monde qui nous entoure, ça peut être des petites plantes au ras des murs, dans les jardins, ça peut être un fleuve, de l'eau, ça peut être aussi des gens qui sont un peu différents de nous et qui portent un autre regard, voilà. Et en trois collections, jeunesse, témoignage et poésie.
Très bien, et j'avais une question, parce que tu es aussi autrice, tu as commencé avec un travail plus de documentaire et de journaliste sur le monde paysan. Et actuellement, maintenant, tu as édité un conte pour enfants. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à écrire pour le jeune public ? Je crois que c'était la première œuvre destinée à ce public-là.
Oui, moi, à la base, je suis journaliste. J'ai une formation de journaliste, j'ai exercé en tant que journaliste. Et donc, je me pose des questions. Je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi et j'essaie de répondre, de faire passeur d'informations, etc. Et pour le conte, c'était un petit peu particulier parce que je sortais d'un gros travail sur un livre documentaire sur l'agriculture dans la région. J'entamais un autre travail sur l'agriculture là au niveau national sur le renouvellement des générations agricoles. Alors tout ça, j'avais un petit peu envie de faire une pause, de voilà. Et il se trouve que la professeure de violoncelle du conservatoire, qui est avant Mélanie, donc Anne Brochard, m'a dit, on cherche un conte pour un projet classe de violoncelle de trois conservatoires, c'était Saintes, La Rochelle et Royan. Et elle me dit, toi qui es éditrice, toi qui es autrice, tu connais peut-être des gens. Je dis, je réfléchis. En fait, je n'avais pas tellement envie de confier ça à quelqu'un d'autre. Ouais. J'avais envie d'écrire, moi. Et il se trouve que j'adore les arbres. Enfin, j'aime beaucoup les arbres. Et j'ai interviewé des scientifiques. Voilà. Et je venais, quelques mois auparavant, de découvrir l'existence des rivières volantes. Et les rivières volantes, autant vous le dire tout de suite, ça existe vraiment. C'est une création des grandes forêts. C'est le rôle des arbres dans le cycle de l'eau. Et ça m'avait transportée. Et du coup, quand la porte m'a été ouverte d'écrire, alors là, je suis partie à fond dans un conte sur la rivière volante. Et il y a eu une création musicale et ça a été joué dans les conservatoires au sortir du confinement, en fait.
Oui, et c'est ce qui nous a, nous, amené à refaire un projet et avec toi et avec, et avec Mélanie. Est-ce que, avant de passer la parole à Mélanie, sur les rivières volantes, est-ce que tu aurais soit des documentaires, soit des films documentaires ou livres documentaires à nous conseiller pour aller plus loin sur ce sujet?
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu un documentaire sur Arte qui s'appelle « Le mystère des rivières volantes d'Amazonie » qui est disponible encore, je crois, sur la plateforme. Il y a eu des articles sur Géo, sur des interviews de ce chercheur Antonio Nobre qui a découvert l'existence des rivières volantes au Brésil, mais qui a aussi montré que ce système de ce qu'on appelle la pompe biotique fonctionne sur tous les grands massifs forestiers. Voilà, mais peut-être le plus accessible, c'est ce documentaire.
C'est le documentaire sur Arte.
Sur Arte, oui.
D'accord. Et pour découvrir les rivières volantes, le conte Les rivières volantes et les classes de violoncelle seront. Il y a une représentation à la bibliothèque d'Aigrefeuille d'Aunis, au nouveau centre culturel, le 4. Le 4, c'est le nom du lieu.
Ah.
Et la représentation aura lieu le 15 décembre à 15h. Et je laisse la parole à Renaud et à Mélanie.
Oui, alors j'avais une petite question quand même à poser à Véronique Duval en amont. Ce conte a été mis en musique par André Telmont, me semble, compositeur et enseignant au Conservatoire de Rochefort pour un ensemble de violoncelle, comme on a pu le comprendre tout à l'heure. Oui. Comment se fait cette rencontre avec un compositeur et quelle démarche il y a autour de cette écriture finalement musicale? Est-ce que tu lui as confié l'intégralité, la liberté de composer cette œuvre comme il l'entendait, ou est-ce que finalement il y a un prérequis que tu instaures au départ quand tu le rencontres par rapport à ton écriture du texte?
Alors moi j'ai fait entièrement confiance à Anne Brochard, c'est qui était en contact avec des profs de violoncelle de Royan et de La Rochelle, et qu'elle était prof aussi à Saintes. Et André, je l'ai rencontré à la première répétition, mais en fait, il a fallu que les professeurs de violoncelle valident le conte, ensuite qu'ils le confient, qu'ils le proposent à André Telmont. Et André Telmont a validé aussi. Enfin voilà, moi j'ai suivi ça, je me dis, oh, bah, super, les profs valident, super, le compositeur valide. Et après, il m'a dit que lui, il a été sensible à cet univers-là, et ça s'est fait assez naturellement.
Mélanie, tu es enseignante au sein de ces deux établissements que sont le Conservatoire Nice Sud et l'École de musique de la Petite Nice. Tu travailles depuis combien de temps sur ce projet Les Rivières Volantes et sous quelle forme?
Oui, alors nous avons commencé au Conservatoire de Surgères avec la classe de violoncelle à travailler dessus à partir du printemps dernier. Le projet s'est monté au fur et à mesure. Et ensuite, nous avons invité la classe de violoncelle de l'EMPA, l'École de musique d'Aigrefeuille, à nous rejoindre. Et avec eux, j'ai commencé à partir de septembre. Voilà, donc ça s'est fait au fur et à mesure. Et nous les avons intégrés, pas dans tous les morceaux, puisque c'est une œuvre assez conséquente, qui est de 10 petites périodes. Et ça s'est super bien passé. Je pense que tout le monde est très content de faire ce projet-là.
Il y a combien d'élèves qui sont concernés à Surgères, enfin à l'école de musique d'Aunis Sud, et combien d'élèves concernés à l'UMPA pour ce projet?
Alors, il y a une dizaine d'élèves concernés à Surgères. Et 5 élèves à Aigrefeuille. Et les âges des élèves sont très très différents. Nous avons des enfants qui ont 9, 10 ans, 11 ans, et beaucoup d'adultes aussi, particulièrement à Surgères. Donc c'est très mélangé, et c'est ça qui est intéressant.
Du coup, il y a, j'imagine, des répétitions qui sont faites en commun. Il y a une organisation pour cet événement. Tout au long de cette préparation, les classes travaillent séparément, mais il y a peut-être des moments où ils se réunissent pour... Comment ça se passe?
Oui, alors nous avons travaillé séparément, déjà chacun dans son cours, puis on a fait des petits regroupements dans chaque école, où on se voit toutes les semaines. À Surgères, par exemple, c'est tous les samedis, et à Aigrefeuille, tous les mercredis. Et nous avons fait 3 répétitions tous ensemble, voilà, et c'était le moment de se rencontrer et de mettre en commun tout le travail qui a été fait.
Alors, il me semble aussi que Véronique fait partie de ta classe. C'est ça, non ?
Oui, tout à fait. C'est une de mes élèves. Donc, ça tombe très, très bien. Et c'est vraiment une chance parce qu'on a pu vraiment découvrir ce conte-là avec Véronique qui nous a expliqué tout, tout ce qui se passait.
Pouvez-vous nous donner un avant-goût de ce projet ?
Alors, on va vous présenter un extrait du début de l'histoire. Et c'est l'histoire d'un petit garçon, Colin, et de sa sœur jumelle, Clara, par une nuit d'hiver. À l'abri dans sa maison, Colin regardait la tempête secouer les branches. Il entendait l'eau ruisseler par les gouttières en un roucoulement vif. Mais ni la pluie, ni le vent, ni l'obscurité ne franchissaient les murs de sa demeure. Chaud. La lumière dorée de la chambre éclairait le lit, les meubles, les objets immobiles. Alors que l'univers tout entier semblait livré à la nuit et à la tempête, quelques murs et un toit pouvaient abriter un monde tout autre. Ou était-ce une illusion ? Peut-être que sa maison, entouré d'eau comme un bateau, allait se mettre à flotter. Peut-être allait-elle partir dans le vent et le courant.
Merci.
Merci beaucoup. Avant de vous retrouver à Aigrefeuille, c'était un super, super moment, merci encore. Véronique, juste une dernière question, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton actualité du moment en tant qu'éditrice de La Nage de l'Ours ?
Ah bah avec plaisir, parce que c'est encore une histoire liée à l'eau et au paysage, puisque nous venons de publier Le goût d'un fleuve, la Charente, de Blandine Gambiasi. Blandine est partie des sources de la Charente à pied avec son fils, gamin. Elle a parcouru les 385 km jusqu'à l'embouchure. Et en chemin, elle a collecté des recettes, elle a bivouaqué, elle a interviewé des gens. Et c'est vraiment un livre qui fait le lien entre la nourriture et les paysages, entre la mémoire des nourritures, ce patrimoine qui est lié à des terres, des culture, etc.
D'accord, merci beaucoup. Et c'est une très belle, un très bel objet aussi que ce livre.
Oui, avec une magnifique carte dessinée à la main.
Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci Julie. Beaucoup. Merci Renaud. Et puis merci surtout à toutes les deux. Effectivement, c'était très envoûtant. En tout cas, on a bien noté la date aussi pour vous retrouver sur le spectacle Les Rivières Volantes. Donc ce sera bien au 4 et pas le 4. Et ce sera le 15 décembre à Aigrefeuille de Nice, donc pour le spectacle Les Rivières Volantes. On continue toujours dans l'univers du conte, avec un projet un peu particulier. Il y a quelques semaines, nous nous sommes rendus aux ateliers Cyclab à Surgères, un lieu qui est dédié au réemploi et qui inspire la création sous toutes ses formes. L'occasion pour nous de rencontrer des artistes, mais aussi des enfants qui participent ensemble à un projet à la croisée du conte, de la musique et surtout de la réflexion autour du réemploi. On vous laisse écouter.
Au commencement, tout était froid et sombre. Burbu Boon, une créature de sable, se balade dans le bois de la Bastière à la recherche de bois pour réchauffer les siens.
Moi je m'appelle Simon Goudot.
Du coup Simon, t'étais présent à Cyclab aujourd'hui pour travailler sur un projet avec des élèves de Genouillet, c'est ça ?
C'est exactement ça, on a fabriqué, on a testé des instruments de musique en matière recyclée. ça s'est super bien passé. Les élèves étaient hyper intéressés. Ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit spectacle. En tout cas, on a présenté notre musique en tant que musicien et groupe.
Je joue à cache, cache avec moi-même. J'ai le parfum de mon voisin. Je vais dans les mêmes magasins. Je joue à cache, cache pour que l'on m'aime. J'ai le sourire de ma voisine.
Je suis Grégory.
Et moi, je suis Vincent. On fait partie du groupe Hollywood Bazaar, donc c'est un trio musical.
Puis on fait de la chanson française, un peu patiné de poésie urbaine.
Et aujourd'hui, vous étiez là dans un cadre un petit peu différent. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ?
Ben, on a fait de la médiation culturelle, c'est le terme approprié. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai rencontré Simon. On a tous les trois essayé de faire participer les élèves sur la réflexion de qu'est-ce que c'est que le recyclage, comment artistiquement on peut réfléchir à la question, comment on peut rajouter des émotions à cette notion de recyclage.
Alors, Anne Bianchi, je suis conseillère pédagogique en éducation musicale pour l'éducation nationale. Ma mission, en fait, consiste à accompagner les écoles sur des projets musicaux avec différents partenaires du territoire, et ce, sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime.
C'est un projet qui remplit plusieurs objectifs et finalement on voit qu'il y a des enjeux qui peuvent se regrouper aussi assez facilement.
Complètement, et l'idée c'est vraiment de donner du sens en fait et de faire comprendre aussi aux enfants tous les enjeux qui peuvent être perçus autour de la musique, mais aussi de l'environnement, de la construction de leur future société, puisque ce sont les futurs citoyens de demain quand même.
Alors comment vous vous appelez ?
Lohan. Nino. Izzy.
Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ?
On a chanté, on a été visiter un labo sur le bois. Et on fabrique plein d'objets de musique.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez appris sur le recyclage ?
À ne pas jeter pour à la place, on peut reconstruire avec les affaires qu'on a, on peut reconstruire les affaires.
Vous allez plus recycler maintenant à la maison ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a appris que maintenant qu'il fallait recycler, il faut plus recycler à la maison ?
Ah bah bien sûr.
Moi je veux dire parce que je recycle déjà beaucoup.
Et moi je dirais à mes parents, soit vous le faites, soit je le fais tout seul, mais alors je réutilise et on ne jette pas.
Les destructions nous donnent des leçons.
Et voilà pour ce micro-trottoir. Alors, on a déjà un peu exploré l'univers du conte dans la première partie de cette émission, mais je vous propose de poursuivre cette immersion, mais cette fois-ci avec une autre troupe, celle de la compagnie Les Déculottés. Héloïse, je te laisse la parole.
Bonjour, aujourd'hui dans le Zoom, nous sommes accompagnés de Delphine Robin, fondatrice de la compagnie de théâtre Déculottée, avec un E, en 2021. Elle est basée depuis ses débuts à Aigrefeuille-d'Aunis, mais elle est actuellement à la recherche d'un nouveau local de travail. Et elle est aussi accompagnée de stagiaires, Liam et Sohan, du collège d'Aigrefeuille. Bonjour Delphine, d'où te vient l'amour et la maîtrise de ton métier ?
Bonjour Héloïse. Je dirais que, comme souvent les comédiens et comédiennes, quand j'étais enfant, j'aimais faire le clown, même si j'étais très timide, mais surtout j'aimais me raconter des histoires et raconter des histoires. Et quand j'ai découvert qu'il y avait un métier où, en fait, on pouvait raconter des histoires à longueur de journée, je me suis dit que c'était magique et que, pour le reste de ma vie, je raconterais des histoires.
Et quel a été le déclic pour te lancer en 2021 ?
En 2021, on était sur la fin du Covid, donc j'avais un petit peu de temps pour faire de l'administratif, pour monter une compagnie, et je me suis dit que c'était le moment. Je ne pourrais pas l'expliquer. Est-ce que tu travailles en équipe ou principalement toute seule?
Alors, ça dépend des projets. Pour les spectacles jeunes publics, majoritairement, je suis toute seule. Et là, actuellement, sur notre dernière création, je suis accompagnée de deux autres comédiens, comédiennes, un compositeur de musique et un vidéaste. Et même une technicienne lumière qui nous fait une jolie création. Donc, on est vraiment sur un gros projet, une grosse équipe.
Enseignante de formation, tu interviens auprès de différents publics, dont les plus petits, en abordant des questions de genre à travers tes créations, telles que Le Dernier Voyage d'Amelia, en référence à l'aviatrice Amelia Earhart. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire avec ce personnage?
Je suis un petit peu tombée amoureuse de son histoire, un peu par hasard. À l'époque, j'étais animatrice pour enfants. Et on avait, comme souvent on fait des grands jeux, et il fallait un personnage, et j'ai inventé un personnage qui était une aviatrice qui s'était perdue sur une planète et qui s'appelait Amelia. Et on m'a dit, mais tu sais qu'il y a vraiment une aviatrice qui s'appelle Amelia et qui a disparu? Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir son histoire, et je l'ai trouvée passionnante. J'ai trouvé que c'était une femme vraiment très intéressante, et qu'au-delà de ses exploits d'aviatrice, elle avait mené des exploits aussi dans l'avancée pour le féminisme et de la place de la femme dans l'aviation. Et ça m'a donné envie de la faire découvrir, et j'ai trouvé que c'était un super outil de médiation pour parler justement des stéréotypes de genre.
Et est-ce que tu as un souvenir, une expérience mémorable là, à travers tes représentations, d'une réaction du public?
Je me souviens d'une petite fille qui, à la fin, est venue me voir en me disant que ça lui avait donné en fait envie de voler et qu'elle avait bien compris qu'en fait, rien n'était impossible. Et c'est pas parce que c'était une petite fille qu'elle pouvait pas se permettre de faire ça. Et je me suis dit, le message est passé, c'est super.
Donc un sujet qui te tient à cœur et qui nous concerne tous, tu animes également des ateliers parents-enfants et tu interviens auprès de groupes scolaires. Tu as adapté, tu en as parlé dernièrement, Burn Baby Burn de Karine Lacroix, une pièce qui est destinée à toucher le public adolescent notamment. Alors de quoi nous parle cette pièce?
C'est une pièce qui parle du passage à l'âge adulte, ce moment qui peut être un petit peu difficile pour les adolescents, où des fois on peut se sentir un petit peu seul, un petit peu dépassé par ses émotions et par tout ce qui nous entoure. Et l'histoire suit deux jeunes femmes qui sont dans deux solitudes à la fois semblables et opposées, deux personnages à la fois semblables et très différentes, et qui se rencontrent et qui vont se lier une amitié pour toujours et qui vont s'aider l'une et l'autre à grandir.
Donc tu as dit, c'est une pièce beaucoup plus ambitieuse au niveau de la création. Tu interviens avec la compagnie Murmure Impatient. Comment ça s'est passé, ce travail de scénographie? Combien de temps vous avez pu mettre en place cette création?
Là, c'est une création qui est sur 2 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est ambitieuse, puisque c'est une création qui a été subventionnée. C'est la première fois pour la compagnie. Et effectivement, on est en coproduction avec la compagnie Les Murmures Impatients, qui a été montée la même année que nous, à un mois près. Et on s'est dit que ce n'était pas parce qu'on était des jeunes compagnies qu'on ne pouvait pas être ambitieuse. Donc on a décidé de s'allier pour monter cette grande création. Et là, on arrive enfin au terme des répétitions. Et effectivement, on s'est dit, quitte à être ambitieuse, viens, on fait composer la musique, viens, la vidéo, ça va vraiment apporter quelque chose dans le récit. Viens, on se le permet. C'est pas parce qu'on est jeune compagnie qu'on peut pas le faire.
Et oui, c'est pas parce que vous êtes jeune compagnie aussi que vous pouvez pas détourner les codes dans les contes, les personnages. Tu reprends beaucoup aussi des personnages de contes comme les princesses et tu t'amuses à détourner les codes.
Oui, j'aime bien. J'avoue que mes spectacles parlent à la fois aux petits et à la fois aux grands. Et effectivement, ça m'amuse de prendre, par exemple, dans notre pièce avec les princesses, il y a un conte où on reprend l'histoire du roi Arthur et où finalement l'héroïne est la servante. Et finalement, c'est elle qui devient reine, c'est elle qui manie Excalibur. Et ça m'amuse un petit peu de détourner ça et puis d'aller ailleurs et puis de mettre surtout un petit peu les femmes en avant. Merci beaucoup, Delphine. Nous rappelons que tu es à la recherche d'un nouveau local pour travailler. Est-ce que tu pourrais me dire quelles sont tes prochaines dates de représentation ?
Oui, alors là, on va jouer le 2 et 3 janvier à 16h30 à la Tour de la Chêne, à La Rochelle. On va jouer un spectacle qui s'appelle « La fileuse de rêve », un spectacle de contes et d'improvisation. Et le 9 janvier, on va jouer « Le dernier voyage d'Amélia » au Cube à Pulboro à 20h.
Merci beaucoup Delphine, de la compagnie Déculottée, avec
Merci.
Un E.
Et peut-être qu'on peut retrouver Delphine sur les réseaux sociaux ou...
Mais oui, formidable. Effectivement, on est sur Instagram, Facebook, Compagnie Déculottée. On a un site internet avec tous nos spectacles. Et puis, envoyez-nous des petits mots doux, on adore vous lire.
Merci Héloïse et puis merci Delphine pour cette présentation. On arrive maintenant sur la fin de cette émission. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur notre site internet onis-sud.fr, puis évidemment toujours sur les ondes d'LNFM. Avant de vous dire au revoir, je vous propose de finir en musique. Mélanie, est-ce que ça te va si je te laisse la clé des champs ?